Vous êtes sur RTL.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Christelle Robière.
Vous prenez la parole et j'attends en particulier vos témoignages au 32-10 jusqu'à 14h. Si vous êtes victime de ces terribles inondations qui frappent et qui endeuillent l'Allemagne et la Belgique en ce moment, Christian nous appelle de Liège. Bonjour Christian.
Bonjour Christelle, bonjour à tous.
Comment ça va?
Sinistrement. Je ne sais pas si le mot existe, mais c'est sinistre. Le centre-ville de Liège est pratiquement désert. Il y a des sacs de sable un peu devant certains immeubles en prévision d'eux. Le niveau de la Meuse est exceptionnellement élevé, sans dire que, en tout cas, là où je suis, elle ne déborde pas encore.
Bah vous allez nous raconter tout ça, Christian. Je fais le rappel des titres et puis je reviens vers vous très vite. Merci en tout cas de nous avoir appelés. L'épouvantable bilan des intempéries, donc en Allemagne et en Belgique, au moins 118 morts pour les trois quarts en Allemagne. Il devrait encore s'alourdir puisqu'un important glissement de terrain a eu lieu ce matin près de Cologne où des dizaines de maisons ont été emportées par la furie des eaux. En Belgique, le centre-ville de Verviers est complètement ravagé. Il y a déjà 6 morts dans les environs. Valentin Boisset, vous êtes l'envoyé spécial d'RTL. L'eau est redescendue et on commence à mesurer les dégâts.
Oui, c'est un paysage de boue et de carcasses de voitures retournées qui se dévoilent peu à peu avec en fond sonore les alarmes des voitures et des habitants qui tentent de sortir des maisons, ce qu'ils peuvent sauver. Karim, par exemple, il a dormi chez un ami, mais il habite tout près de la rivière. Sa voiture est partie, il est venu constater les dégâts avec sa femme.
On essaye un peu de dégager, de voir ce qui a récupéré, ce qui a jeté.
Comment ça s'est passé hier?
C'était un peu surréel, quoi. On ne s'attendait vraiment pas à ce que l'eau monte autant. La voiture, elle s'est soulevée, elle a flotté, elle est partie sur le côté.
À noter aussi qu'à Verviers, beaucoup de services publics ont été impactés, 2 écoles inondées, le tribunal aussi, et les services de la ville qui semblent totalement démunis. Des ponts menacent désormais de s'effondrer. Alors tous les agents, y compris de la poste locale, sont appelés en renfort, comme Magali.
J'ai un seau, une raclette, fût-ce que pour déblayer en fait, c'est la première chose qu'il va falloir faire. Verviers a besoin d'aide.
Et puis il y a ce bilan humain très lourd, 6 décès, bilan qui pourrait augmenter dans les heures à venir, car les recherches vont réellement commencer désormais sous le commandement de l'inspecteur Giraud.
Ici, on essaie de mettre les gens en sécurité, de retrouver les corps, malheureusement, mais c'est pas le moins possible.
Dans l'après-midi, de nouveaux secours devraient arriver depuis les provinces environnantes.
Et c'est la décrue aussi dans l'est de la France. En Alsace, il a davantage plu depuis 6 mois que durant toute l'année 2020. Éric Dupond-Moretti est depuis 4 heures maintenant dans le bureau des magistrats de la Cour de justice de la République. Le garde des Sceaux, qui se dit serein, est interrogé sur un éventuel conflit d'intérêts. Il risque une mise en examen. Prudence face au Covid. L'Agence européenne des maladies prévoit qu'il y aura 5 fois plus de nouveaux cas d'ici au 1er août. Dans les Pyrénées-Orientales, le masque redevient obligatoire en extérieur, sauf sur la plage. Dites-nous au 32-10 si vous avez, de votre côté, relâché les gestes barrières. Le Tour de France, le départ de la 19e étape a été donné il y a une demi-heure de Mourinx. Où en est-on, Mourad Jabari?
Et 6 hommes en tête avec un écart qui augmente 3 minutes d'avance sur le peloton. Un groupe composé de 2 Français, Franck Bonamour et Julien Bernard, mais aussi de Matej Maoric qui était vainqueur de la deuxième étape au Creusot. Un départ très très nerveux. On roule à plus de 65 km/h avec une chute dès la moitié du peloton, dès le deuxième kilomètre. Une vingtaine de coureurs au sol, mais sans gravité. Ils sont tous remontés en selle. David Gaudu, le Breton, s'est quand même blessé à la main. Il est au niveau de la voiture médicale, mais ça devrait aller. Plus de 25 km parcourus. Les coureurs traversent la commune de Lacadée. Prochain point dans une demi-heure.
À tout à l'heure, Morane.
Et les petites histoires olympiques. Jean-Michel Rascol sur RTL.
Et chaque jour dans RTL Midi, nous revenons sur la grande histoire des Jeux. Le monde de l'olympisme fascine les collectionneurs, mais le résultat de leur quête peut parfois surprendre, voire dégoûter. Ainsi, Rémi s'est porté acquéreur d'un souvenir des Jeux de 1940 qui n'ont jamais eu lieu. Jean-Michel Rascol.
C'est un collectionneur du dimanche qui aime la mer et les objets pas forcément précieux qui touchent à l'olympisme. Un peu dandy, toujours hardi, Rémi Fier déniche sur la toile une vente en Allemagne où est proposé 2 reliques des Jeux qui n'ont pas eu lieu, ceux de 1940. Intrigué, il se porte acquéreur d'un foulard et d'une pochette qu'il envisage d'exhiber sur le marché de Sète, son futur port d'attache. Le grand jour arrive, l'homme va toucher ses trésors.
Bonjour monsieur, c'est pour vous. Oui, bonjour monsieur le postier, c'est effectivement, j'attends ça. Et donc j'ouvre mon paquet et puis je découvre donc ce foulard en soie et cette petite pochette que je déplie. Voilà, c'est pas une soie qui est hyper raffinée, je pense une soie effectivement des années 30-40 où l'économie était pas très florissante, et j'ouvre et je le déplie comme ça. Alors c'est assez joli, c'est assez coloré, c'est un carré de soie, il y a les anneaux olympiques sur quatre coins, et puis tout autour, il y a tous les drapeaux vraisemblablement des pays qui font partie du CIO. Donc je regarde d'un œil un peu discret, je tourne un peu le foulard, et puis tout d'un coup, et en fait j'avais pas du tout pensé à ça, effectivement, au beau milieu de ces drapeaux, eh ben, il y a le drapeau nazi avec la croix gammée, le cercle blanc entouré de rouge, et là je me dis, je suis trop con, effectivement, en 40, j'aurais dû y penser, il devait forcément y avoir un drapeau nazi, donc j'étais un peu choqué, et je l'ai replié. Et je me suis dit, c'est pas la peine que t'achètes une veste pour porter la pochette sur ton blazer. J'ai replié tout ça et puis je l'ai mis dans mon placard. Et en fait, je l'ai jamais sorti. Je le sors de temps en temps, mais bon, c'est un objet à la fois fascinant et repoussant, moi je trouve. Voilà, parce que il y a effectivement ce symbole, tout ce que ça véhicule avec. Je sais pas trop quoi en faire, en fait.
Petit rappel historique, en 1937, le Japon envahit la Chine. Les militaires nippons préfèrent que l'argent consacré aux futurs jeux soit investi dans l'armement. Le CIO gardera espoir avant que le monde en guerre tourne définitivement le dos à l'événement.
C'était pas la première fois, parce que pendant la Première Guerre mondiale, il devait y avoir déjà des jeux à Berlin, en 1916, qui avaient aussi été annulés à cause de la guerre. Voilà, et puis il devait y avoir des jeux en 1944 qui ont également été annulés, mais je pense pas que là ils aient produit des foulards en soie et des pochettes.
Une simple pochette et un foulard rayé de la honte pour un devoir de mémoire qu'il est toujours utile de ranimer.
Au récit Jean-Michel Rascol et à la mise en onde Spencer Clairefeuille.
Les auditeurs ont la parole
avec Christelle Robière.
Et nous retrouvons Christian, donc, qui est toujours en ligne de Liège. Alors Christian, racontez-nous où vous êtes. Vous me parliez de sacs de sable autour de vous.
Oui, en venant sur un endroit que tous les Liégeois connaissent et qui s'appelle la passerelle Saucy, j'ai vu des quartiers aux alentours. Et dans nos nombreux endroits, on a effectivement empilé des sacs de sable dans la prévision d'une crue de la Meuse.
Oui.
Le niveau de la Meuse est exceptionnellement élevé. Mais on peut pas, à l'endroit où je suis, on peut pas dire qu'il déborde. Ce qui est vraiment le cas des débordements, c'est en amont, du côté de la banlieue de Liège, de Chesnay, etc., ou même en aval vers le pont dont le nom m'échappe pour le moment, mais qui est un pont barrage, qui est actuellement en travaux et qui fait que la Meuse ne peut pas s'écouler aussi normalement que d'habitude, qui donc provoque des soucis supplémentaires.
Mm-hmm. Vous avez circulé, vous, un petit peu dans le
oui,
pont, ou c'est extrêmement compliqué?
Non, dans le centre-ville, on ne peut pas dire que c'est compliqué. Il y a certainement des lignes de bus qui ne passent pas comme d'habitude, mais dans le centre-ville, c'est pas compliqué. La différence, c'est que c'est sinistre. Personne ne circule, probablement parce que des gens n'osent pas ou ont des soucis chez eux. Mais le centre-ville où je suis est anormalement calme.
Oui, c'est un peu Liège-ville fantôme, quoi.
Oui, c'est carrément ça, on peut le dire. Oui, c'est vrai.
Est-ce qu'il y a encore des appels à évacuer ou pas?
Pas depuis hier soir.
Oui, parce que c'est plutôt la décrue quand même, là.
Oui, je viens de parler à quelques personnes qui sont carrément du quartier et qui m'ont dit oui, ça a diminué par rapport à hier. Pas de beaucoup, mais ça a diminué, donc il y a de l'espoir, quoi. Mais si on va dans les quartiers un peu en aval ou carrément en amont, alors là, la situation est complètement différente parce que les berges de la Meuse sont différentes et que l'eau a pu passer au-dessus et ça provoque d'autres soucis, quoi, carrément. Ça coupe des routes, notamment certains hôpitaux sont inaccessibles pour l'instant parce que les routes sont coupées, etc.
Vous faites un excellent reporter, Christian.
Je vous dirai pourquoi après.
Ah bon, d'accord, parce que je vous trouve excellent. Justement, dites-moi, vous avez 64 ans, vous. Alors, vous avez un passé de journaliste, c'est ça?
Non, mais j'ai beaucoup fréquenté votre milieu, si je peux dire comme ça, surtout dans les années 80, la rue Bayard, je connais bien.
D'accord. Bon, voilà. Vous-même, est-ce que vous êtes sinistré ou pas?
Non. Moi, je suis en plein centre-ville, loin du fleuve et au cinquième étage, donc je ne pense pas que je risque grand-chose.
D'accord. Est-ce que vous aviez déjà vu ça?
À Liège, non, parce que je ne suis pas vraiment liégeois d'origine, mais j'allais vous dire, dans le village d'où je viens, à 20 km de Liège, j'ai vu des images de copains qui m'ont envoyé, ou carrément des images officielles. Là, je peux vous dire que c'est du jamais vu. Ça s'appelle l'Amblève, la rivière s'appelle l'Amblève, c'est du jamais vu. Et ce qui est encore jamais vu, c'est que, à titre tout à fait personnel, nous avons perdu un ami d'enfance qui est mort noyé dans sa cave.
Ah oui,
oui, hier? Avant-hier. Avant-hier déjà.
Mais c'est terrible, on a entendu des témoignages de gens qui étaient montés sur le toit ou...
Oui, oui, j'ai vu ça aussi, des images de la région où des gens ont passé des heures et des heures dans le froid et sur le toit jusqu'à ce que, heureusement, on puisse les dégager. Mais c'est vrai que ça, c'est du jamais vu. C'est le mot qui revient tout le temps. Jamais vu, jamais vu.
Mais votre ami n'a pas pu être sauvé, c'est-à-dire que les secours n'ont pas eu le temps d'arriver ?
Mais non, parce que, d'après ce que j'en sais par son épouse, il a entendu que l'eau entrait dans la cave. Il est descendu pour voir s'il pouvait y faire quelque chose, mais ça a monté très vite. Mmh. Il y a des objets qui sont tombés et qui l'ont empêché de bouger. Et elle m'a dit qu'elle l'avait entendu appeler au secours et puis c'est tout. L'eau est montée et il est toujours dans la cave parce qu'on ne peut pas accéder au corps.
C'est terrible. Et c'est vrai qu'on dit souvent que l'eau, c'est pire que le feu parce qu'un incendie, on peut lutter, mais contre l'eau, contre la violence de l'eau, on ne peut rien faire.
Je l'ai déjà entendu dire, j'espère que je ne le vivrai jamais. J'ai vécu d'autres choses, mais pas ça. Et je ne demande pas à le vivre, évidemment. Et je pense surtout à vous me demander si moi je n'avais pas à me plaindre. Mais non, je n'ai pas à me plaindre. Il ne faut pas aller loin pour voir que les gens sont dans des situations bien plus dramatiques que ça et qu'on est finalement plutôt impuissant devant ça.
Absolument. Ben merci d'avoir témoigné. Merci, Christian.
Mais c'est avec plaisir. Dans d'autres circonstances, ça aurait été bien aussi. Oui. Mais c'est avec plaisir, de toute façon.
Mais il y aura d'autres circonstances, j'en suis sûre. Merci pour votre appel. On fait une pause. Merci, oui. Passez une bonne journée aussi. Merci Christian, on fait une pause. Et dans un instant, on va accueillir Sarah qui veut témoigner aussi.
Jusqu'à 14h,
les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Christelle Rebière. Jusqu'à 14h,
les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Christelle Rebière.
Et avec l'incontournable Laurent Tessier. Que serait-on sans lui ? Bonjour.
Oh, si vous saviez. Bonjour Christelle, bonjour à tous. Nous vous attendons au 3210 pour parler des intempéries dévastatrices en Europe. Plus de 100 morts et des centaines de personnes portées disparues. Si vous êtes en Allemagne, en Belgique, venez témoigner dans l'émission comme Christian, habitant de Liège, il y a quelques instants.
Le centre-ville de Liège est pratiquement désert. Il y a des sacs de sable un peu devant certains immeubles en prévision d'eux. Le niveau de la Meuse est exceptionnellement élevé, sans dire que, en tout cas, là où je suis, elle ne déborde pas encore. Là, je peux vous dire que c'est jamais vu.
Dites-nous ce que vous avez vécu ces dernières heures. Quelle est la situation dans votre ville ? Avez-vous des proches qui vivent dans les zones concernées par les inondations ? Comment vont-ils ? Avez-vous réussi à avoir des nouvelles ? Grosse pensée à nos voisins belges et allemands, nous dit José sur la page Facebook RTL, les auditeurs ont la parole. C'est terrible, rajoute Eric, un total soutien à nos voisins. Soyons tous solidaires et la nature est imprévisible, rappelle Jacqueline.
Bonjour Sarah.
Oui, bonjour.
Et merci de nous appeler. Vous nous appelez de Vaux sous Chèvremont. Où est-ce exactement en Belgique ?
Alors, c'est entre Chauffontaine et Chesnay, donc c'est à plus ou moins 20 km de Liège.
D'accord.
Donc, je vais dire que nous, on a été dans une des zones les plus touchées. Donc, ça a été trop Chauffontaine, Vaux sous Chèvremont et Chesnay. Donc, on a eu plus ou moins 1,30 m dans nos maisons d'eau. Donc, tout est sous eau. Donc là, on a dû rester bloqué au premier étage, donc dans ma chambre, parce que le bas était inaccessible. L'eau est montée jusqu'au-dessus de ma cuisine, donc j'ai plus rien.
Mais l'eau est montée vite, et ça s'est passé vers quelle heure ? Est-ce que c'était en pleine nuit ?
Non, pas du tout. Donc, l'eau a commencé en fait à monter à 15h. J'étais en train de travailler. Et puis, j'ai entendu mes voisines qui disaient « Oh là là, c'est la catastrophe, il faut qu'on fasse quelque chose. » Donc, j'ai été voir et j'ai vu que l'eau commençait à monter dans la rue. Mais j'étais vraiment à milieu de me douter de ce qui allait arriver. Mmh. En une heure de temps, l'eau est arrivée à mon seuil et je me suis dit « Là, maintenant, c'est fini. » Et donc, on a évacué tout ce qu'on a pu. Et puis, on a vu l'eau qui a commencé à monter dans ma cave. Et puis, la cave a débordé. Et puis, là, l'eau est entrée par ma cour, par la cave et par la porte d'entrée. Et donc, on n'a fait qu'une chose, c'est monter à l'étage. On avait prévu 2-3 trucs pour manger, pour boire. On s'est réfugié à l'étage. On a passé la nuit. On n'a plus de courant, forcément. Donc, il a fallu préserver nos GSM pour garder de la batterie au cas où. Et puis alors, pendant la nuit, il y a une maison qui a pris feu à l'arrière avec un coup de circuit. Et en fait, il y a 5 maisons qui ont brûlé. Donc on a vu, malheureusement, on était impuissants. On a vu des gens sortir de chez eux. Ils étaient bloqués sur les toits. Personne ne savait venir nous secourir parce qu'il y avait 2 mètres d'eau dans la rue. Les camions de l'armée ne savaient pas passer, les camions de pompiers ne savaient pas passer. Il y avait tellement de courant que les canaux des pompiers se sont renversés dans la Vesdre. Et d'ailleurs, il y a 3 personnes, je pense, qui sont décédées. Les pompiers ont survécu. Donc, on était seul au monde. Et c'est un monsieur qui est venu avec son jet ski et qui a commencé à secourir personne par personne. Et puis, vers 22 heures, alors, une fois que l'eau a commencé à descendre, on nous a secourus, les pompiers sont venus nous chercher, ils nous ont emmenés dans un centre. Et là, ben voilà, ma fille a pu venir me chercher pour me ramener chez elle. On avait pris un petit sac juste avec le nécessaire. Et ce matin, on est allé constater les dégâts. C'est l'apocalypse, c'est Armageddon. Les voitures sont dans les abribus, tout est cassé. On voit tout est dehors, les étables, des chaises, des frigos, des divans. Les gens ont tout, on a tout perdu.
Vous avez perdu tout ce que vous aviez au rez-de-chaussée.
Au rez-de-chaussée.
Vous pensez que vous pourrez habiter de nouveau dans votre maison ou plus du tout?
Alors, je vais pouvoir, mais pas tout de suite, puisque il n'y a plus de courant, il n'y a plus de réseau, puisque la borne de notre réseau mobile a pris l'eau, donc il n'y a plus rien. Donc maintenant, il va falloir que j'aille habiter quelque part. Donc ce matin, j'ai été faire une valise vidée parce que j'ai plus de frigo, plus de congélateur, tout est à jeter.
Ah,
et
oui.
Donc là, il va falloir que j'aille habiter chez ma maman, le temps que j'aille tout nettoyer déjà et puis qu'on puisse avoir le courant.
Donc, est-ce que vous avez l'impression que vous réalisez ce qui vous arrive ou qu'au fond, vous êtes encore sidéré?
Alors, non, parce que je vais dire qu'on ne s'attend jamais à voir une catastrophe. Je vais dire que quand on le voit à la télévision, on se dit « Oh là là, les pauvres gens, ils ont tout perdu ». Mais encore une fois, tant que ça ne nous arrive pas, on ne se rend pas compte de ce que c'est d'être isolé dans une pièce, ne plus avoir de courant. On a tellement l'habitude d'avoir le confort, d'avoir notre petite télévision, se lever pour aller dans le frigo. Une fois qu'on n'a plus ça, on se rend compte que, on se plaint, mais il y a tellement de gens qui sont malheureux dans le monde entier. Mmh. Et nous, dès qu'on perd, on n'a plus la télé pendant 15 minutes, on crie au scandale. Or que on ne se rend pas compte. Et malheureusement, il faut le vivre pour s'en rendre compte. Heureusement que nous, notre quartier, on est tous solidaires. Tous les voisins, on est tous solidaires l'un avec l'autre, donc on a aidé les personnes âgées, les plus vulnérables que nous. Enfin voilà, j'ai vu des familles partir sans leurs animaux. On peut dire c'est que des animaux, mais voilà, pour eux,
non, c'est
plus
bien
que
plus que ça, bien sûr.
Voilà. Et donc je vais dire, tant qu'on ne vit pas, malheureusement, on ne sait pas s'en rendre compte. Donc voilà.
Merci beaucoup Sarah, merci d'avoir le courage de témoigner. J'imagine que ce sont des heures extrêmement compliquées à vivre. Merci, on vous embrasse et j'espère que tout va s'arranger. Ça prendra du temps, mais voilà, on pense à vous. Merci Sarah. On fait une pause et dans un instant, on va accueillir Pierre.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Christelle Robière.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Christelle Robière.
118 morts, des centaines de personnes portées disparues en Allemagne et en Belgique. C'est le bilan malheureusement très provisoire des terribles inondations depuis 48 heures. Pierre nous appelle de Theux en Belgique. Bonjour Pierre.
Bonjour. Je vous appelle d'ici de l'atelier. On est en plein centre de Theux, à côté de la commune. Nous, on vient ici d'arriver pour constater que l'eau était complètement partie.
Oui, c'est la décrue en ce moment, un peu partout en Belgique.
Et principalement à Theux, on est impressionné parce que ça a débordé jusqu'à plus d'1,50 m dans le centre-ville et maintenant il n'y a plus rien. Comme s'il n'y avait pas eu d'eau, quoi. Il nous reste juste les dégâts, c'est-à-dire la boue partout, les caves principalement remplies d'eau pour certains qui n'ont pas la chance de faire autre chose.
On a un petit problème avec la liaison, Pierre. Oui, je pense qu'on va essayer de vous rappeler parce que la liaison n'est pas très bonne. On vous rappelle tout de suite, Pierre. Hein. On a Cédric aussi qui souhaiterait témoigner, qui est en Moselle, lui. Bonjour, Cédric.
Oui, bonjour.
Racontez-nous.
Donc moi, comme je disais aux collaborateurs, donc nous, on n'a pas été impactés.
Nous, la seule chose sur laquelle on a été impacté, c'est que, par exemple, donc, il y a énormément de frontaliers qui prennent le train pour venir travailler à Luxembourg, hein, parce que moi, je travaille à Luxembourg. Donc là, il n'y a plus de train.
Oui, il n'y a plus de train depuis hier, oui.
Voilà, il n'y a plus de train. Donc les routes sont un peu saturées. Mm-hmm. Hein, et en fait, les grosses inondations ici, elles ont quand même eu lieu dans le nord de Luxembourg.
Oui, hein. La France donc, a été relativement épargnée. Hein.
Oui, c'est ça. Mmh. Bon, il y a eu des coins à côté de chez nous, à côté du Luxembourg, comme Longuyon, qui ont été quand même. Il y a quand même eu un mètre d'eau dans la ville, dans oui. le centre-ville.
On donc avait un envoyé spécial à Longuyon hier, effectivement.
Voilà, donc là, ça a été impacté. Bon, sinon, c'est plus du côté de Metz et tout ça. C'est plus Metz et Thionville, des caves et tout ça, les champs qui ont été inondés. Ma collègue qui disait, voilà, là, dans un champ. Où il y avait les vaches qui étaient, ben voilà, ça a été impacté. Mais c'était surtout dans le nord du Luxembourg, qui se rapproche de la Belgique, où là, il y a deux villes qui ont été quand même complètement vidées de leurs habitants. Mm-hmm. Donc à Vianden et à Etelbruck. Et donc nous, on a vu des images là sur les réseaux sociaux, donc luxembourgeois, où carrément, il y avait carrément dans le supermarché, il y avait plus d'un mètre d'eau, quoi.
Ouais, c'est terrifiant. Hein.
Mais heureusement, on a été quand même impacté. Nous, du côté de Metz, Thionville, on a quand même un peu été impacté.
Est-ce que vous êtes surpris quand même de ces terribles inondations en plein mois de juillet? Est-ce que vous avez déjà vu ça en plein été?
Jamais vu ça. Jamais vu ça. Honnêtement, ce qu'il est tombé entre lundi et hier, c'était. J'ai jamais vu ça. Je disais à ma femme, il y a quelqu'un qui a ouvert un robinet et qui a oublié de le fermer. C'était sans discontinuer. Vraiment, c'était incroyable. J'ai jamais vu ça. Moi, voilà, j'ai 44 ans, je n'ai jamais vu ça à cette époque de l'année. Hein. Mmh.
Et qu'est-ce qu'on vous a raconté, donc, plus précisément, du côté du Luxembourg?
Du côté du Luxembourg, honnêtement, comme je vous dis, en fait, nous, on n'a pas été impactés. Parce que nous, on travaille à Esch. Hein, donc là, je suis avec des collègues. Donc nous, là, le bâtiment où on est n'a pas été impacté. Donc on a vu tous les cours d'eau sont sortis de leur lit, bien sûr. Hier, même ma femme travaille au Luxembourg, elle m'a dit il y avait les pompiers en permanence toute la journée, hein, parce qu'il y a beaucoup de caves qui ont inondé tous les cours d'eau, donc plein de routes fermées, bien entendu.
Oui. Hein.
Et donc, bon, un exemple, par exemple, ma femme, elle devait hier, on met 30 minutes pour aller au travail, elle a mis 1h50 hier. Ouf. Donc, parce que tout était impacté, quoi. Mais c'est vraiment dans le nord de Luxembourg. Et nous, on ne travaille pas dans le nord de Luxembourg. On est vraiment proche de Luxembourgville, qui a été quand même un peu moins impacté que vraiment le nord de Luxembourg. Hein. Et même quand même à Luxembourgville, dans le Grund, donc c'est un quartier de Luxembourg, là, c'était complètement sous l'eau. Parce qu'il y a l'Alzette, le cours d'eau de Luxembourg, l'Alzette qui est sortie de son lit. Et donc là, il y a eu quand même des inondations dans le fond du Luxembourg, dans le quartier Grund, en fait. Mmh. Voilà, c'était quand même incroyable ce qui est tombé. Moi, j'ai jamais vu ça, honnêtement, à cette époque de l'année, et surtout avec cette intensité.
Oui, bien sûr. Merci beaucoup, merci d'avoir témoigné de ce qui se passait au Luxembourg. C'est vrai qu'on en a parlé un peu moins, puisqu'il y a, ça a été moins difficile et il n'y a pas eu, heureusement, il n'y a pas eu de décès au Luxembourg, mais c'est vrai qu'en Belgique et en Allemagne, là, ils vont payer un lourd tribut à ces inondations. On fait une pause et dans un instant, on va repartir sur le Tour de France.
Jusqu'à 14h,
les auditeurs ont la parole.
Avec Christelle Rebière.
RTL, Tour de France 2021.
Et on part retrouver sur la route de la 19e étape notre ami Morad Djabari. Alors, Morad?
Entre Mourinx et Libourne, et c'est toujours aussi nerveux dans le peloton. Deuxième chute depuis le début d'étape. Certains coureurs étaient sur le bas-côté, dans le fossé. Le maillot vert, Marc Cavendish a chuté. Guillaume Martin, notre Français, 8e au général. Sonny Colbrelli, le champion d'Italie. Ils sont tous repartis. Ils sont en selle. Ils rentrent en ce moment en queue de peloton dans les voitures des équipes. Mais ça frotte dans le peloton alors qu'on approche le sprint intermédiaire. Le peloton qui roule parfois à plus de 50 km/h. À l'avant, toujours 3 minutes 50 d'avance pour les 6 hommes échappés, dont les deux Français Franck Bonamour et Julien Bernard. Prochain point dans une demi-heure.
Merci beaucoup, Morad. Vous revenez à 14h pour un nouveau point sur le Tour de France. Laurent Tessier.
Respectez-vous toujours les gestes barrières. Ce sera notre sujet dans quelques instants. Refaites-vous la bise à vos amis, vos proches. La poignée de main est-elle revenue, par exemple, avec vos collègues? Lors du défilé du 14 juillet, Brigitte Macron a été vue en train de faire la bise à des ministres, des invités, masque contre masque. Des images qui ont énervé certaines personnes sur les réseaux sociaux. Écoutez la réaction du ministre de la Santé, Olivier Véran.
Nous faisons tous au quotidien, et Madame Macron, plus que n'importe qui, très attention avec un port du masque, avec le respect des gestes barrières, le gel hydroalcoolique, ce qui n'empêche pas, vous voyez, j'ai même fait, quand j'ai vu Thierry Repentin, le maire de Chambéry, que j'apprécie, que je n'avais pas vu depuis longtemps, je lui ai, chose rare, serré la main et fait une accolade. Excusez-moi, il faut être vigilant au quotidien, et nous le sommes tous, quelles que soient les fonctions, les positions que nous pouvons avoir, et nous sommes humains.
Le ministre de la Santé, Olivier Véran, avec notre correspondant Serge Payot. Alors refaites-vous la bise, continuez-vous de respecter les gestes barrières, et bien sur la page Facebook RTL, les auditeurs ont la parole. Sylvie est très claire, je n'ai pas attendu que le Covid soit là pour appliquer ces gestes de bon sens. Laver mes mains est une habitude, j'ai horreur en plus qu'on me fasse la bise. Yannick, tiens, a vu son médecin traitant, il ne porte pas de masque, il me serre la main, et quand je lui fais remarquer, il me sort qu'il est vacciné. Donc continuez de réagir sur la page Facebook de l'émission, et venez apporter vos témoignages.
Et appelez-nous, on vous attend, c'est intéressant parce qu'on se relâche tous évidemment, et à partir du moment où on a eu les deux doses, encore plus. Donc c'est intéressant d'en parler tous ensemble. Merci Laurent. On en revient justement aux intempéries, hein, puisque on le rappelle, il y a eu 118 morts et probablement des centaines encore de disparus en Allemagne et en Belgique à cause des inondations depuis deux jours. On a retrouvé Pierre, qu'on avait du mal à joindre tout à l'heure. Pierre, vous êtes de nouveau parmi nous?
Oui, je ne sais pas si vous allez continuer à m'entendre, parce que le réseau est très instable à Teux, sûrement parce qu'il y a beaucoup de monde qui sont sur les lignes, et sûrement aussi parce qu'il y a peut-être des dégâts au niveau des antennes relais.
Oui.
Donc moi, ici, donc on est à l'atelier, c'est un restaurant, c'était un restaurant situé à côté de la commune, en plein centre. Donc oui. Nous, on a subi l'inondation de plein fouet, puisqu'on a plus d'un mètre vingt qui est monté dans le restaurant. Les caves ont été complètement inondées, et j'avais quatre caves, donc autant vous dire qu'il y a pas mal de dégâts.
Et j'imagine que dans la cave, vous aviez beaucoup de choses et
tout ce qui est stock de boissons, tout ce qui est stock nourriture, tout ce qui est frigo, congèle, tout ça, c'est foutu, quoi. Il n'y a plus rien. Et une partie de notre matériel professionnel et quasiment l'intégralité de notre cuisine et de notre bar qui est à jeter.
Et l'eau est montée en combien de temps?
Ça a été très vite, parce que mercredi après-midi, quand moi je suis parti et que ça commençait à devenir un peu dangereux pour moi, j'ai essayé de sauver quelques trucs, de remonter en hauteur, mais je m'attendais pas à ce que ça monte aussi haut. Quand je suis parti, il y avait plus ou moins 50 cm d'eau, et dans la nuit de mercredi à jeudi, voire même jeudi matin, il y a eu plus d'1,50 m dans le centre-ville. Donc c'est vraiment monté très très vite et en très peu de temps. Et beaucoup de riverains, nous, on a eu la chance d'être partis avant. Beaucoup de riverains sont restés bloqués dans leurs habitations. Ils ont dû se réfugier au premier étage. Certaines maisons étaient complètement dévastées, des façades arrachées, des vitrines complètement brisées. On a des voitures qui flottaient dans la rue principale pour aller s'encastrer dans le parking du Deleuze.
En fait, c'est un chaos, quoi. Ce sont des images de chaos.
Ah oui, hier, quand nous on est repassé hier après-midi, l'eau était déjà partie, c'était incroyable, on a eu une inondation éclair, et après l'eau est très très vite partie de Teux, même si je sais que dans beaucoup d'endroits, l'eau est encore présente chez nous, à Teux, il n'y a plus rien, et on constate les dégâts, donc des pavés par milliers, arrachés, des morceaux de trottoir, des voitures encastrées dans des façades, il y a certaines maisons qui voyaient carrément la hogne passer à travers. C'est vraiment impressionnant, on se croyait en temps de guerre, c'est abusé. Et la terrasse, notre terrasse, elle a été complètement arrachée, évidemment.
Que reste-t-il de votre établissement, Pierre, en fait?
Concrètement, tout ce qui était à plus d'1,20 m, donc pas grand-chose. Tout ce qui est, voilà, on va sûrement pouvoir sauver le mobilier de terrasse qu'on avait sécurisé à l'intérieur, et les chaises, tables, ça devrait pouvoir se nettoyer et être récupéré, mais tout le reste est foutu.
C'est terrible. Donc, vous ne pouvez plus exercer votre activité?
Non,
jusqu'à
j'en ai
nouvel
pour
ordre.
Moins, 6 mois, oui. Facilement.
Donc là, vous allez vous tourner vers les assurances, bien sûr. Est-ce que vous êtes en zone inondable, Pierre?
A priori, non. En tout cas, quand j'ai repris le bâtiment, ce n'est pas une info que j'ai eue. Et la Hogne n'est pas tout à fait proche quand même. On est à quand même quelques mètres. Donc je ne pensais pas que c'était une zone inondable, et d'après ce que j'ai compris, ça n'est jamais arrivé une crue pareille en plus de 50 ans, voire même 100 ans. Donc voilà.
Est-ce qu'à un moment, vous avez eu peur pour votre vie?
Hier, quand on est parti... Mercredi.
Oui, mercredi après-midi.
Oui, quand on est parti et qu'on a dû traverser le courant, on avait peur, oui, un petit peu de se prendre une bûche ou une voiture même en traversant la rue. Mais dans l'ensemble, ça allait. J'ai fait en sorte de ne pas me retrouver coincé et de partir avant.
J'imagine qu'il y a une solidarité autour de vous, Pierre.
Oui, la solidarité tétoise est incroyable. On l'a senti directement en reprenant le commerce ici. Les gens sont très solidaires. Un petit peu chauvin, on ne va pas se mentir. Mais il y a vraiment une entraide. Et là, aujourd'hui, il y a tous les scouts, les jeunes des environs, les voisins, ceux qui sont moins touchés, qui viennent donner un coup de main un peu partout. Et nous, moi, j'ai même refusé de l'aide parce que j'ai mes potes qui sont là et je préfère qu'ils privilégient les gens qui ont peut-être moins d'entourage. J'ai l'avantage d'être très bien entouré. Mmh. Et Nous, on a vraiment cet avantage-là d'avoir suffisamment de bras pour pouvoir nous aider et de ne pas en avoir besoin de plus.
Eh bien, merci beaucoup. Merci d'avoir témoigné, Pierre. Et bon courage. Bon courage à vous. Et on vous rappellera dans quelques jours pour voir comment ça va. Merci encore. On fait une petite pause et puis on change de sujet. On va en venir aux gestes barrières parce que j'aimerais bien savoir si vous les respectez comme avant ou pas trop, finalement.
Les auditeurs ont la parole
avec Christelle Robies.
Jusqu'à 14h,
les auditeurs ont la parole sur RTL
avec Christelle Robies.
Et avec Laurent Tessier.
Et nous pouvons parler ensemble du Tour de France. La domination écrasante cette année du Slovène Pogacar sème-t-elle le doute? Le maillot jaune a remporté hier une nouvelle étape. À 22 ans, il a presque 6 minutes d'avance au général. Sa mère, Marietta, s'est confiée au micro RTL de Morad Jabari. Elle a répondu aux suspicions qui entourent son fils.
Peut-être parce qu'il ne fait pas de grimaces comme, je ne sais pas, les autres coureurs font toujours des grimaces. Il s'est très bien entraîné, il se développe toujours depuis des années.
Mais vous comprenez que les gens se posent des questions?
Oui, on comprend à cause de l'histoire qui s'est passée dans le cyclisme. Mais je crois que maintenant c'est vraiment purifié. Je crois qu'il est contrôlé chaque jour après l'étape. Souvent... avant l'étape et déjà souvent le matin dans son hôtel. Je suis tout à fait confiante en lui, je suis fière de lui et je suis sûre qu'il ne prendrait jamais de dopage, des substances qui ne sont pas permises. C'est un homme honnête.
Et vous, qu'en pensez-vous? Les performances de Pogacar vous perturbent-elles? Faut-il voir le mal partout? Eh bien, Bourbernie, sur la page Facebook de l'émission, il est aussi honnête que Lance Armstrong. Le problème, rajoute Yves, c'est qu'en France, dès qu'un coureur cycliste est au top, on lui met l'étiquette de dopé ou de tricheur. Au moins, le vélo paraît tellement simple. Lance Véronique, finalement, la montagne, c'est super facile. Et Carole en est persuadée, une maman défendra toujours son fils. Que peut-on dire à cela? Pas grand-chose.
Ça, c'est sûr. Bon, allez, on continue à parler des gestes barrières, puisque Brigitte Macron, vous l'avez peut-être vu, a un peu choqué les internautes lors du défilé du 14 juillet. Elle, parfois sans masque ou en faisant la bise aux invités et aux ministres. Il y a eu de nombreux messages qui ont été publiés sur les réseaux sociaux, alors que le chef de l'État vient d'annoncer de nouvelles restrictions liées à la crise sanitaire. Alors, en partant de cet exemple, on a voulu savoir si chacun d'entre nous était un petit peu plus relâché en ce moment, même si le danger est toujours là, et en particulier avec le variant Delta. Bonjour Bernard.
Oui, bonjour Christelle.
Soyez le bienvenu, vous êtes à Jouziers, dans les Alpes-de-Haute-Provence. Ouais. Alors.
Exactement. Ah ben moi, écoutez, je continue parce qu'en fait, on a eu une certaine habitude, si vous voulez, de mettre le masque. Hein, c'est devenu un réflexe, en fait, quelque part. Mmh. Puis nous, ici, nous, j'habite un petit village de 1000 habitants. Quoi. Mais nous... Il faut mettre le masque, par exemple, pour rentrer dans les magasins, toujours. Et donc, forcément, comme on sait, c'est petit. Donc, entre chaque magasin, on a 10 mètres, quoi. Donc, moi, je sors de ma voiture, je mets le masque, et puis voilà, je vais faire mes courses, par exemple.
Oui, vous ne le posez pas tous les 10 mètres, quoi.
Ah bah non, ce serait ridicule. Et puis, nous, on essaie quand même. Moi, je vois, là, j'avais eu une réunion dernièrement, là, dans le village, et on s'est pas serré la main, quoi, si vous voulez. On s'est pas fait la bise, on s'est pas serré la main, on s'est tapé le poing, quoi, si vous voulez.
Oui,
voilà.
C'est ça.
Donc, ça, c'est resté. Donc, moi, je fais encore attention. Bien sûr, on était un peu relâché pendant. Mais maintenant, bon voilà.
Quand étiez-vous relâché?
Lorsque on a commencé à dire bon voilà, les restaurants peuvent rouvrir, vous savez, juste toutes ces choses-là. Donc je me suis dit ça y est, petit à petit, ça va être de mieux en mieux. Puis finalement, pouf, le variant Delta arrive. Donc ça a été très long. Alors moi, je précise que je suis vacciné.
Oui, doublement vacciné, complètement vacciné.
Oui. Voilà. Ce qui est normal parce que j'ai 70 ans, donc on était dans les premiers à se faire vacciner, bien entendu. Oui. Voilà, donc, mais c'est pas pour, c'est pas pour, c'est pas la raison. Donc moi, je
donc
continue.
Donc en fait, vous continuez à pratiquer les gestes barrières comme avant, même en étant doublement vacciné.
Oui, bah oui, parce que en fait, si vous voulez, c'est le problème, si vous voulez, c'est que on a des spécialistes qui vous disent tout et son contraire, quand même. Hein. Donc on nous dit, bah vous êtes vacciné, vous êtes tranquille, mais d'autres disent, bah non, vous pouvez quand même le transmettre.
Ah, mais c'est vrai qu'on peut quand même l'avoir.
Si on peut l'avoir,
même si, oui, on ne développera pas de forme grave, et on peut aussi, ouais, le transmettre, même si on le transmettra beaucoup moins puisque, voilà, l'on est vacciné. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas de risque zéro. On est bien d'accord.
Bah non, le risque zéro n'existe pas. Puis moi, j'attends. Si vous voulez, après, bon, on peut toujours discuter là-dessus. Je pense qu'à un certain moment, à un moment donné, il faut faire quand même confiance aux autorités, parce que si on ne leur fait pas confiance, c'est même plus la peine, en fait, si vous voulez. Bah vous, oui, savez, les théories du complot, tout ça, ça existe. Oui. Moi, je me dis, j'attends que les autorités donnent un feu vert et disent, bon, voilà, c'est tout, c'est terminé.
D'accord. Et vous pas voyez, de relâchement, voilà, non plus avec vos proches, Bernard ?
Alors, avec les proches, c'est un peu différent, parce que moi, j'ai des petits-enfants. Les petits-enfants viennent à la maison, bon... Là, on les prend dans nos bras, on les embrasse. Oui. Enfin, voilà, ouais, quoi. Ça, ouais, si.
Oui. Gardez, si, pas le masque avec les proches.
Avec les proches, on fait plus. Je veux dire, on fait moins attention, on fait plus attention, quoi, si vous voulez. On part du principe. Nous, on part du principe quand même que nous, on est vaccinés. Mon épouse est vaccinée aussi. Les enfants ne le sont pas. Enfin, ma fille et son mari ne le sont pas encore, mais vont sûrement l'être, si vous voulez. Puis les petits. Donc là, on fait pas. Là, c'est vrai que là, on sait. Mais d'ailleurs, il faut quand même reconnaître que ça fait déjà un moment que entre nous, dans la famille, on est quand même moins, comment dirais-je, rigoureux sur les gestes barrières. Vous voyez, ce qui est quand même un peu humain.
Oui, bien sûr. Bah, c'est difficile.
Mais je me souviens, si vous voulez, au début, lorsqu'on a le début du Covid, là, on se mettait à 1m50. Même avec les proches, en fait, si vous voulez, si on les croisait. D'abord, au début, ils n'avaient pas le droit de venir, parce qu'on n'avait pas le droit de se déplacer.
Bien sûr.
Donc, en fait, les choses sont quand même un peu moins contraignantes maintenant, quoi.
C'est vrai, c'est vrai. Vous pouvez rester avec nous si vous le souhaitez, Bernard. On a Thierry aussi qui souhaite témoigner, qui nous appelle de Charente. Oui. Bonjour Thierry.
Merci, bonjour Christelle, bonjour Bernard. Je rejoins un peu, je partage les propos de votre précédent auditeur. Et moi, personnellement, je n'ai pas attendu qu'il y ait le Covid pour me laver les mains. Hein. Ni d'avoir du gel hydroalcoolique, on en a toujours eu dans le sac à main, dans la voiture, de partout. Donc les gestes barrières, à proprement dit, ben, c'est le masque et la distanciation qu'on respecte, bien sûr.
Mm-hmm. Mais vous n'avez après rien changé à vos habitudes. Est-ce que vous êtes vacciné, Thierry ?
Première dose et la seconde dose la semaine prochaine.
D'accord. Donc vous êtes encore extrêmement vigilant.
Oui, comme tout citoyen lambda, on respecte la distance, on met le masque, et puis ce qui est de se laver les mains et de mettre du gel hydroalcoolique, comme je vous dis, j'ai pas attendu d'avoir le Covid, qu'il y ait le Covid qui existe pour le faire, quoi. Et pour revenir au sujet qui a un peu excité la toile,
Oui, Macron, par rapport à Brigitte Macron, oui, qui a embrassé des ministres, mais avec le masque.
Alors, je vais être clair. Je n'ai pas voté Macron, je ne soutiens pas Macron.
Non, mais ce n'est pas politique, là. Hein.
Laissez-la tranquille. Laissez-la tranquille. Dès qu'elle bouge le petit doigt, il lui rentre dedans. Regardez devant chez vous ce qui se passe avant d'aller voir ce qui se passe ailleurs. Quoi. Tout est bon pour tirer sur Macron. Tout est bon.
Et
c'est fatigant.
Vous, Thierry, vous continuez à porter le masque tout le temps, ça ne vous dérange pas ?
Non, c'est comment on met ses chaussures le matin, on met le masque là où il doit être mis, je vois pas où est le problème.
Et quand vous voyez des gens qui ne le font plus, par exemple, ou qui ne respectent pas les gestes barrières, vous leur faites une remarque ou pas ?
Non, puisqu'ils crient tous haut et fort que c'est des grands garçons, il faut arrêter des grandes personnes, il faut arrêter de les infantiliser. Donc voilà.
Oui, ça c'est vrai.
Oui, Bernard.
Chacun prend ses responsabilités. Je veux dire, à un moment, les adultes, il faudra qu'ils pensent à une chose, c'est qu'au-dessous d'eux, il y a des enfants. Et les enfants ne font que reproduire ce que font leurs parents et le comportement des adultes. Donc avant d'aller donner des leçons et d'aller manifester avec des panneaux et tout, qui commencent déjà à respecter les règles, et si les règles ne leur plaisent pas, eh ben ils vont ailleurs. Je veux dire, à un moment, faut arrêter. On peut tout critiquer, on peut cracher sur tout, mais à un moment, il y a des règles. Elles sont comme ça, qu'elles plaisent, qu'elles plaisent pas, c'est pas le problème. Elles sont comme ça. Point barre.
Et vous avez bien l'intention de continuer à les respecter. Merci Thierry d'avoir témoigné sur RTL. Dans un instant, on poursuit cette conversation avec Sandra.
Jusqu'à 14h,
les auditeurs ont la parole
avec Christelle Robière. jusqu'à 14h.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Christelle Rebière.
Et avec Laurent Tessier, c'est sa toute dernière intervention avant ses vacances.
Oh, ya, ya, ça va être la meilleure, je pense, celle-là. Venez nous raconter.
C'est le moment de tout donner. Allez-y.
Oh, bah, on y va. Venez nous raconter votre meilleur souvenir de vacances autour de Nice. Dites-nous aussi, comme Christelle, quel est votre projet cet été?
On enlève le haut.
Aïe, 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 l'ambiance annonce muy caliente chez les Rebières. Et puis, quel est le principal sujet de conversation lors du barbecue?
Vous pointez ou vous tirez?
Ah bah le tournoi de pétanque. Et si vous vous ennuyez chez les beaux-parents, n'oubliez pas le conseil de Christelle.
Un petit coup et ça repart.
Pastis partant bleu, pastis délicieux.
C'est bien noté, Christelle. Bon, à consommer avec modération. Et quel est pour vous le meilleur tube de l'été? Vous dansez?
Bah, si vous voulez, après l'émission, on ira danser.
Ça devient chaud dans ce studio. Hein.
Muy caliente, comme vous dites. Merci, Laurent. Allez, on en revient au geste barrière avec Sandra, qui a fait le 32-10 et qui nous appelle de Lyon. Bonjour, Sandra.
Oui, bonjour Christelle.
Alors vous les respectez encore scrupuleusement, vous aussi?
Moi, je les respecte scrupuleusement et c'est vrai que j'entendais donc votre le dernier auditeur être un petit peu virulent.
Thierry, oui. Il disait c'est la règle, il faut la respecter, c'est comme ça, oui.
Oui, mais ça, moi, je suis totalement d'accord, il faut la respecter et je pense que par rapport à notre président, à la première dame, c'est un petit peu dommage de voir qu'au plus haut niveau de l'État, c'est pas forcément bien clair et bien mis en place. Et je sais que moi, je vois souvent des gens qui n'ont pas forcément compris tous les gestes barrières. Et quand on voit que même au plus haut sommet de l'État, ils ne savent pas forcément les mettre en place, c'est vrai qu'on peut se poser des questions. Après, pour moi, les gestes barrières, ça aurait été peut-être plus intéressant de plus être pédagogue et de vraiment bien montrer aux gens plutôt que d'imposer un vaccin. Et je comprends pas la dureté et le... Comment on peut forcer pour un vaccin, mais comment on peut être aussi laxiste sur des gestes barrières?
Mais les gestes barrières ne suffisent pas. On les pratique, mais ça ne suffit pas à être complètement protégé. Sandra, vous êtes vaccinée ou pas? Vous avez 31 ans.
Moi, je ne veux pas me vacciner et je n'ai pas développé de cas graves du Covid. J'étais asymptomatique et je pense que si les personnes sont vaccinées et ont les gestes barrières, je ne vois pas pourquoi en fait on devrait nous vacciner alors qu'on ne connaît pas encore le bénéfice risque pour chaque patient. Moi, là où j'ai du mal, c'est sur le concept de vaccin obligatoire pour tout le monde, alors que chaque patient...
Non, il n'est pas obligatoire pour tout le monde.
Hein. Oui, mais on va pas avoir de vie, quoi. On va devoir se faire tester toutes les 48 heures, on va plus pouvoir aller au cinéma, on va plus pouvoir aller au restaurant, c'est une obligation d'Élysée. Pour moi, c'est une restriction des libertés jusqu'à ce qu'on cède, qu'on craque et qu'on soit obligé. Maintenant, les soignants, ils vont perdre leur emploi. Maintenant, il y a d'autres catégories de professions qui vont être aussi touchées. Et moi, je pense aussi à tous ces gens-là et je me dis, mais en fait, est-ce qu'on peut avoir le droit de dire qu'on a peur? Mais c'est pas qu'on ait des anti-vaccins basiques. Moi, j'ai certains vaccins qui ont été depuis plusieurs années mis en place, où on connaît les risques et on connaît aussi sur 10-20 ans le recul. Là, ce vaccin-là, honnêtement, je n'ai pas envie de le faire et je n'ai pas l'impression, moi, en tant que personne et en tant que patient, que ce sera intéressant pour moi, pour ma propre santé. Et le fait de dire tout le monde doit le faire, mais chaque personne, chaque santé est différente. Une personne de 70 ans qui a des problèmes de respiration, oui, c'est intéressant pour elle. Mmh. Une personne de 12-20-30 ans qui n'a aucun souci, qui va très bien. En fait, on va leur dire quoi si dans 10-20 ans, ils développent des maladies auto-immunes pour un Covid ou pour des choses qui auraient été asymptomatiques ou bénins? Moi, c'est ça qui m'inquiète. Et je me dis, est-ce que j'ai le droit d'avoir peur? Est-ce que j'ai le droit de prendre plus de recul? Pourquoi est-ce qu'on veut à tout prix obliger les gens à faire quelque chose en quoi ils n'ont pas confiance? Et est-ce qu'on peut aussi écouter que certaines personnes n'ont pas envie et n'ont pas l'impression que ce sera bon pour eux?
J'entends votre point de vue. Merci Sandra de l'avoir développé en direct sur RTL. On va changer de sujet parce qu'on approche peu à peu à la fin de cette émission et j'aimerais bien qu'on vous entende sur les performances extraordinaires de Monsieur Pogacar. Et nous avons Jean-Paul qui nous appelle du Pas-de-Calais. Bonjour Jean-Paul.
Oui, bonjour Christelle.
Admiratif ou sceptique?
Oh, bah, complètement sceptique. Je voulais juste faire une parenthèse. J'apprécie énormément les propos de votre auditrice précédente sur le vaccin. Voilà, je ferme la parenthèse puisque je suis pas dans le sujet là. mais elle a complètement raison. Oui, donc bien évidemment. Vous savez, ça me fait penser, Pogacar me fait penser, à Lance Armstrong. Lance Armstrong a été un tricheur. Pendant 7 années, il a triché. Il a volé le Tour de France au coureur propre. Et Pogacar, alors bien évidemment, la présomption d'innocence est évidente dans ce cas-là.
Mais vous avez l'impression que ça vous rappelle un mauvais souvenir.
Mais bien évidemment, quand on le voit démarrer en côte, dans l'école hors catégorie, et qu'il est sur place des autres champions, c'est pas non plus des coureurs de bas étage, c'est quand même des champions. Mmh. Et les gars, ils sont sur place et ils les laissent. Mais souvenez-vous de Floyd Landis aussi, après Armstrong, on le voit démarrer pareil, de la même manière, et quelques mois plus tard, il se fait prendre. Alors en plus, autour de Pogacar, il y a quand même un staff technique qui a quand même trempé dans les affaires de dopage. Donc, je pense qu'il faut quand même raison garder.
Mais comment vous, Marcel, je vois bien, vous le suivez, vous, le Tour de France?
Ah oui, moi je suis le Tour de France, oui.
Pardon Jean-Paul, vous êtes pardonnez-moi.
C'est pas grave.
Est-ce que vous êtes toujours aussi enthousiaste ou est-ce que finalement à chaque fois vous voyez une performance comme celle-là, vous vous interrogez et ça vous gâche un peu le plaisir?
Alors écoutez, j'ai 65 ans, je suis de la génération de Hino, je suis de la même année d'ailleurs, hein, puisque Bernard Hino est de 1955 je crois, et j'ai perdu depuis les années, fin des années 90, j'ai perdu cette passion. Alors je suis bien évidemment le Tour de France parce qu'on a des coureurs français qui eux sont propres, j'en suis intimement convaincu, et qui sont pas plus mauvais que tous ces jeunes coureurs qui arrivent et qui débarquent on ne sait d'où. Mais je rêve plus. Ce coureur-là me fait pas rêver. Baudu me fait rêver, mais les Français me font rêver. Alaphilippe me fait rêver.
Oui,
mais on voit bien Alaphilippe, il est champion du monde. C'est pas n'importe qui comme coureur, mais il suit pas les meilleurs. Il suit pas les Pogacar. Donc il y a un problème.
Donc il y a quelque chose qui ne va pas avec Pogacar, qui va probablement quand même remporter son deuxième Tour de France d'affilée dimanche. Hein.
Oui, moi pour moi on lui ôtera dans quelques années. Et juste pour terminer, je veux simplement
rapidement, dites-moi.
Oui, mais je termine là-dessus. Il paraît que pour faire le Tour de France, on peut pas le faire propre. C'est ce qu'on dit.
C'est dommage.
Oui, c'est dommage.
Merci d'avoir témoigné. Merci Jean-Paul. À très bientôt. J'aimerais qu'on finisse cette émission, comme c'est la tradition depuis le début des vacances, avec une chanson d'été. Bonjour Charles.
Oui, bonjour.
Alors, la vôtre, c'est laquelle?
Alors là, vous voyez, c'est comme si vous me demandiez de choisir entre mon père et ma mère, par exemple, ou des choses comme ça.
C'est-à-dire?
c'est très difficile, vous imaginez bien. Mais parce qu'il y en a tellement des chansons. Voilà, en plus, moi.
Une seule me suffira, Charles.
Je sais. D'ailleurs, je l'ai dit tout à l'heure. Mais écoutez, pour son côté intemporel et puis pour l'époque que ça reflète, je dirais L'été indien de Joe Dassin.
Ah, voilà. On l'écoute. Oui.
On ira où tu voudras quand tu voudras. Et l'on s'aimera encore lorsque l'amour sera mort. Toute la vie sera pareille à ce matin, aux couleurs de l'été indien.
L'été indien, c'est un peu ce qu'on vit en ce moment, hein, au niveau météo. Quel souvenir vous associez à cette chanson, Charles ?
De ce matin d'automne. C'est vraiment, c'est quand j'étais vraiment tout petit, j'étais. Puis je vous dis, c'est vraiment le reflet d'une époque, en fait où il y avait beaucoup d'insouciance, où il y avait vraiment de. Vous savez, à l'époque, on dénigrait un peu la variété française. Mmh. Et à la lumière de ce qui se fait maintenant, je pense que des personnes comme Joe Dassin, Sardou, Claude François, Hallyday, qui étaient quand même assez dénigrés à leur époque, dans les années 70. Maintenant, ils passeraient pour des prix Nobel en termes de texte, parce que quand on voit...
Faut pas exagérer, quand même.
Ah, bah, écoutez, Et excusez-moi, mais si vous écoutez Aya Nakamura, Jules, etc., on ne peut pas dire que ce soit de la littérature de haute volée, ou en tous les cas des paroles de qualité. C'est vrai que
C'est un autre style. Mais vous pouvez nous rappeler, Charles, si vous souhaitez. On fera un débat, si vous voulez, dans les prochains jours sur les chansons d'été d'hier et d'aujourd'hui. Merci en tout cas d'avoir témoigné sur RTL. Cette émission touche à sa fin. Merci à tous ceux qui ont fait le 32-10. Une grosse pensée émue pour ceux qui subissent les terribles inondations en Belgique et en Allemagne. On est avec vous. On revient lundi, même lieu, même heure, midi et demi, RTL midi. Et vous prendrez la parole au 32-10. Bon week-end à tous.